Bien, je dois, alors je ne sais pas si je vous dois des excuses à l'avance pour ce que je vais dire, mais en tout cas un avertissement. Ça ne va pas du tout se situer dans l'orientation de cet atelier. Je ne vais pas parler de l'histoire ancienne, mais uniquement de ce que l'histoire me semble apporter pour la compréhension du présent et pour les perspectives du futur, avec tous les risques d'instrumentalisation, d'anachronisme que cela peut éventuellement impliquer. Voilà, et dont je suis parfaitement conscient. L'orientation de ma présentation, vous l'avez dans mon titre, est la valeur d'usage et l'expression valeur d'usage. Excusez-moi, je me mets ici parce que je vais avoir besoin de la souris pour rappeler certains liens, donc je ne peux pas malheureusement rester au milieu. Donc vous voyez, c'est un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines en France, et vous voyez le titre, Penser la valeur d'usage des sciences. Et les questions fondamentales qui sont mises en quatrième de couverture sont des questions qui m'ont tout de suite interpellé parce que c'est les mêmes questions que depuis mes recherches sur l'histoire de la didactique des langues et particulièrement des méthodologies scolaires françaises d'enseignement des langues. Je ne sais pas si on peut cliquer sur les liens avec ça.
Ah, c'est vrai.
Ah, c'est ça le problème. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais de didactique, c'est sûr. Voilà, des questions que je me pose depuis longtemps sur l'histoire de la didactique des langues en général et de l'histoire des méthodologies en particulier. Comment se construit et circule la valeur de la recherche en histoire de l'enseignement des langues? Quelle est la valeur de la recherche en enseignement des langues ou sur l'histoire de l'enseignement des langues pour ses utilisateurs et peut-on la mesurer? La valeur, mais je vous laisse lire. Pourquoi je vais me fatiguer à lire? Et vous avez la troisième question. Voilà. D'où l'idée de reprendre cette expression de valeur d'usage dans mon titre. Alors, l'atelier, voilà ce qu'il était proposé. Moi, je ne vais pas du tout parler de l'état de l'art. Ça va être une perspective uniquement personnelle, à savoir ce qui, dans ma réflexion, dans mes recherches, pour l'enseignement, pour la formation à l'enseignement et la formation à la recherche en didactique des langues, comment je me suis inspiré de l'histoire. On parle de l'histoire, et moi je vais utiliser une perspective au contraire transhistorique. Je ne sais pas si l'expression existe, hein, les historiens parlent de perspective transhistorique, qui correspond exactement, vous voyez, à ces trois titres de ma première recherche sur l'histoire, ça a été ma thèse sur l'histoire de la didactique et de l'espagnol en France. Et vous voyez dans le titre, évolution historique, situation actuelle et nouvelles perspectives. Ben, on retrouve justement cette perspective transhistorique qui s'intéresse à la mise en relation entre le passé, le présent et l'avenir. Voilà. Et je retrouve, si vous voulez, le passé, le présent et l'avenir dans mon propre parcours personnel. Donc j'ai commencé par l'histoire des méthodologies de l'enseignement des langues en 1988. La didactique des langues à la croisée des méthodes, ça c'était une analyse de la situation, de l'état des méthodologies en France à l'époque, où je me suis rendu compte qu'en fait, que dans les classes, les enseignants utilisaient des méthodologies ou des segments, des parties de méthodologie qui renvoyait justement à des constructions historiques antérieures, c'est-à-dire que l'histoire, c'était pas seulement de l'histoire, c'était aussi du présent actuel. Et là, depuis déjà, vous voyez, presque 20 ans, je m'intéresse aux prospectives avec une série d'articles. Tous ces liens-là, en fait, dans la version PDF, renvoient sur mon site. Tous ces articles-là et ces deux ouvrages sont disponibles sur mon site personnel. Voilà, donc ça va être aussi une perspective translangue. Je m'intéresse à la didactique des langues cultures en général et pas à la didactique de telle ou telle langue en particulier. Voilà, donc lorsque Richard m'a envoyé ça, comme à tout le monde, j'ai surtout lu la dernière partie de la phrase, hein, la zone de confort. C'est ce qui me convient. C'est aussi la security zone pour moi. C'est ma zone de sécurité. Vous connaissez, parce que je crois que c'est un Anglais ou un Américain, Peters, la loi de Peters, qui dit que dans tout système bureaucratique, chacun arrive forcément à son premier niveau d'incompétence. Tant qu'il est compétent, il est upgradé. jusqu'à son premier niveau d'incompétence. J'ai essayé toujours de fuir mon premier niveau d'incompétence, quitte à fuir le sujet qui m'était proposé pour proposer le mien. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Voilà les quatre thèmes que je vais traiter successivement. Vous les avez dans les quatre petites reproductions de mon PowerPoint en photocopie. Voilà, tout ça, c'est polémique et ça peut se discuter, bien entendu. Je vais essayer de l'illustrer, justement, du mieux que je peux. Donc, l'histoire comme analyseur des mécanismes de fonctionnement du champ didactique. Sur le premier point, le processus d'élaboration d'une nouvelle méthodologie. Une méthodologie, pour moi, c'est une cohérence globale, touchant à toutes les questions qui commencent par comment. Comment enseigner, comment apprendre et bien sûr, comment mettre en relation l'enseignement et l'apprentissage. Au moins en didactique scolaire des langues en France, mais aussi en français langue étrangère, depuis 70 ans en français langue étrangère, plus longtemps en didactique scolaire des langues, c'est très clair qu'il y a comme ça des grosses masses historiques de cohérence méthodologique que l'on appelle, enfin que j'appelle moi des méthodologies constituées. D'accord ? Alors si vous vous reportez à l'avant-dernière photocopie de votre papier, c'est un des deux documents supplémentaires que je vous ai donné. Voilà, vous avez l'évolution historique des configurations didactiques, à la page 3. D'accord ? Ce qui déclenche le mécanisme qui va générer une nouvelle méthodologie, donc une nouvelle cohérence méthodologique, c'est une modification substantielle de l'agir d'usage que l'on vise. Qu'est-ce qu'on veut que les apprenants soient capables de faire plus tard en langue étrangère, en langue culture étrangère, et de la situation d'usage de référence. Qu'est-ce que mes élèves doivent être capables de faire plus tard, dans quelle situation ? On connaît la liaison structurelle en didactique des langues entre l'agir et la situation, c'est la notion de situation de communication, par exemple. L'agir communicatif va dépendre, bien entendu, de la situation de communication et de ses paramètres. Ça a toujours existé. Pour prendre l'exemple de la configuration, du passage de la configuration 2 à la configuration 3, dans la configuration 2, on prépare des élèves, j'allais dire des honnêtes hommes, à continuer plus tard à lire des ouvrages, des revues. Il y a eu les nouveaux médias, regarder la télévision, écouter la radio, mais c'est toujours chez eux, dans leur salon. L'objectif, c'est d'être capable de maintenir un contact avec la langue culture étrangère, un contact individuel à distance, c'est-à-dire par document authentique interposé, d'où le statut du document authentique qui va être représentatif en langue et en culture. Les deux, qu'est-ce que doit être capable de faire une personne qui va comme ça maintenir à distance personnellement un contact avec la langue culture étrangère? Eh bien, il doit être capable d'extraire de nouvelles connaissances langagières et culturelles du document authentique et, à l'inverse, de mobiliser à l'occasion de la compréhension du document des connaissances langagières et des connaissances culturelles qu'il a déjà. Voilà l'agir d'usage, de référence. C'est exactement ce qu'on demande à l'époque en didactique scolaire. C'est exactement l'agir d'apprentissage de ce qu'on appelle l'explication de texte à la française, qui nous paraît maintenant extrêmement artificielle, mais dans une explication de texte à la française qui est toujours le modèle, qui est toujours actuellement le modèle du baccalauréat français, ce qu'on demande à un candidat, c'est de montrer qu'il est capable de faire ça, de mobiliser pour la compréhension du document des connaissances langagières et culturelles qu'il a déjà, et d'extraire de ce document de nouvelles connaissances langagières et culturelles. Par contre, ce qui apparaît au début des années 70, avec la prise de conscience du Conseil de l'Europe des nouveaux enjeux européens, c'est les niveaux seuil au début des années 70. Et là, la situation sociale de référence, d'un seul coup, c'est le voyage touristique. Tous les niveaux seuil commencent dans la préface en disant que le voyage touristique est la macro-situation sociale de référence à partir de laquelle on va ensuite déduire les micro-situations de communication qui vont permettre de déterminer les actes de parole et les notions, puisqu'il s'agit bien entendu d'une description notionnelle, fonctionnelle dans ces niveaux seuils. Mais tous les auteurs avaient besoin d'une macro-situation de référence. Cette macro-situation de référence, elle est parfaitement adaptée à l'enjeu de l'époque de l'Europe, au projet européen, qui est uniquement de développer la circulation des biens et des personnes à l'intérieur de l'Europe. Par contre, configuration numéro 4 et 5, eh bien, c'est le cadre européen commun de référence. La situation de référence, ça n'est plus le voyage touristique, la rencontre ponctuelle et incoative, et donc initiatique du point de vue culturel avec les étrangers, c'est le vivre et le travailler ensemble dans la durée, dans une société plus multilingue et multiculturelle. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation de référence et une nouvelle situation d'usage, nouvel agir d'usage, eh bien, se met en branle l'ensemble du dispositif qui va aboutir à la construction méthodologique. Un élément essentiel de cette construction qui apparaît ici, c'est la situation scolaire, la situation d'apprentissage de référence et l'agir d'apprentissage de référence. Et là, il y a une loi absolument transhistorique, je n'oserais pas dire universelle parce que je ne connais quand même pas toutes les cultures, mais en tout cas en Occident, il y a une loi transhistorique qui est que on a toujours privilégié en classe comme agir d'apprentissage et comme situation d'apprentissage ce qui ressemblait le plus à l'agir d'usage que l'on visait et à la situation d'usage que l'on visait. Dans la configuration numéro 2, le problème de l'homologie entre agir d'usage-apprentissage, situation d'usage-apprentissage ne se posait pas, puisque l'élève en classe était exactement dans la même situation que l'honnête homme ensuite dans son salon. C'était toujours une découverte et un contact à distance par document authentique interposé. Imaginons pourquoi est-ce qu'un enseignant n'a jamais eu l'idée de dire « Bon voilà, je vous ai photocopié un document authentique, d'accord ?» à ses élèves. Alors, je vais vous demander quelque chose. Vous allez faire comme si vous le lisiez chez vous dans votre salon. Aucun enseignant n'a jamais eu l'idée de faire ça. Tout simplement parce que la situation d'apprentissage est en homologie naturelle avec la situation d'usage. C'est pour ça qu'on n'a pas pensé à inventer la simulation avant l'approche communicative. Parce que dans l'approche communicative, s'installe une rupture entre situation d'usage et situation d'apprentissage. On demande aux élèves de communiquer entre eux en langue étrangère. On veut former les élèves à communiquer en langue étrangère avec des étrangers à l'étranger. Or, ils sont avec d'autres natifs de leur propre langue et ils ne sont pas à l'étranger, ils sont chez eux et ils peuvent parfaitement communiquer dans leur langue maternelle. Donc, la simulation dans l'approche communicative, c'est la manière que l'on a inventée pour rétablir de façon artificielle l'homologie entre la situation d'usage et la situation d'apprentissage. Je vous disais, analyse du présent et perspective d'avenir. En 2002, le premier article que j'ai écrit, après avoir lu le cadre européen commun de référence, j'annonçais, pour une fois, l'historien, c'est toujours dangereux de faire le prophète, d'accord ? Mais j'annonçais que l'agir d'usage de la perspective actionnelle allait forcément être la pédagogie de projet. Parce que la pédagogie de projet, version Freinet par exemple, elle repose fondamentalement sur l'usage de l'homologie entre l'agir d'usage et la situation d'usage, l'agir d'apprentissage et la situation d'apprentissage. Freinet, c'est quelqu'un, un instituteur, qui a dit on veut nous faire former pour plus tard des citoyens dans une société démocratique. Le meilleur moyen pour former pour plus tard un citoyen dans une société démocratique, c'est de demander à l'élève d'agir comme un citoyen dans une classe que nous allons transformer en mini-société démocratique. C'est-à-dire que la pédagogie de projet repose sur l'idée fondamentale de l'installation et de l'exploitation de l'homologie entre situation d'usage, agir d'usage, situation d'apprentissage et agir d'apprentissage. Voilà, noyau dur méthodologique se construit sur la base d'une homologie maximale entre la fin et le moyen. C'est ce qui explique le statut absolument incontournable de la communication dans l'approche communicative. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a plus besoin, ou plus besoin de la même manière, de la simulation dans la perspective actionnelle. L'exemple que je prends toujours, c'est un couple mixte, on va dire franco-algérien, un Français marié depuis longtemps avec une Algérienne. Ils vivent depuis très longtemps, on va dire, en Allemagne, à Hambourg. D'accord ? Ils sont tous les deux chez des amis allemands, deux couples d'amis allemands. Et ils discutent de façon très animée, en allemand. Ils discutent d'un problème, par exemple, les relations entre Merkel et Hollande. Je prends un exemple comme ça au hasard. Bah. À un moment, la Française, qui est en fait de famille maghrébine, elle est de langue algérienne, dialecte algérien maternelle, d'accord. Ensuite, le français. Elle s'est mariée avec un français, elle a des enfants en France. Elle vit depuis 30 ans, elle vit depuis 30 ans, même depuis quelques années en Allemagne. D'un seul coup, ce que dit son mari la surprend. Et elle lui fait une remarque. Mais une remarque qui rentre dans la discussion générale. Comment est-ce qu'elle va parler à son mari? Ah, excusez-moi, Entschuldigung, vous me permettez que je fasse comme si j'étais une Allemande auprès de mon mari? Chérie, est-ce que tu veux bien qu'on joue aux Allemands tous les deux? Ah ben, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. En allemand. On se dit, mais ça va pas. Dans cette situation-là, il n'y a pas besoin de simuler. On est dans un milieu multilingue et multiculturel. On n'a pas besoin de simuler. La langue, on va utiliser en l'occurrence l'anglais, ils vont utiliser l'anglais par politesse ou même par convention, ou on peut dire même par efficacité. Parce que si elle fait une remarque en français à son mari, qu'est-ce qu'elle va être obligée de faire immédiatement? De le traduire en allemand. Donc c'est beaucoup plus simple, son mari connaissant l'allemand et elle parle en allemand, de parler directement en allemand. Il n'y a plus besoin d'être allemand pour qu'un français parle en allemand à un autre français. Voilà, une situation très... Et une situation qui se multiplie dans les sociétés multilingues et multiculturelles et qui sont amenées à se multiplier. L'élaboration, je vais essayer d'aller un peu vite, l'élaboration méthodologique se fait en fonction des modèles idéologiques, pédagogiques, cognitifs, linguistiques et culturels. Pourquoi je lis ça? Le 23. D'accord? Bon, on en parlera si vous voulez en cliquant sur ces liens du fichier PDF que je vous envoie si vous le voulez. Vous cliquez sur le lien et vous tombez sur mon site et vous pouvez télécharger directement le document. J'ai mis sur mon site tous mes ouvrages et ma centaine ou deux centaines, je ne sais plus, d'articles. Tout est sur le site directement et librement consultable. L'élaboration théorique s'effectue pour l'essentiel a posteriori. C'est un petit peu une conséquence de ce que je viens de dire. Ce qui modifie fondamentalement le passage d'une méthodologie à une autre, c'est pas que les linguistes brutalement ont découvert la pragmatique. C'est pas du tout ça. Ni que les psychologues ont découvert le cognitivisme. Ça, c'est de, pour reprendre justement un concept cognitiviste, c'est de l'étayage a posteriori d'une méthodologie qui, fondamentalement, s'est faite à partir du squelette de cet agir d'usage, situation d'usage et d'apprentissage. Voilà, l'approche langagière et l'approche culturelle s'autoconfigurent l'une par rapport à l'autre. C'est une autre leçon, me semble-t-il, de l'histoire. Je vous donne un exemple concret, que l'on connaît bien, puisque c'est l'approche communicative. J'ai un certain nombre de citations, y compris sorties de thèse, sur l'approche communicative, où il est très clair que il y a eu combinaison approche communicative, approche interculturelle, en français. Hein. Les deux font la paire, comme on dit, plaisamment. Hein. C'est très clair qu'au moins au début, l'approche interculturelle est venue se configurer par rapport à l'approche langagière. C'est la langue qui était prioritaire par rapport à la culture. Et on trouve, je le montrerai tout à l'heure ça, on trouve si vous voulez, des caractéristiques fondamentales de l'approche langagière, on va les retrouver dans l'approche interculturelle. Pourquoi est-ce que dans l'approche interculturelle, on met l'accent surtout sur les stéréotypes, et surtout sur les stéréotypes sociaux, et surtout sur les stéréotypes sociaux négatifs? Ça ne vous a jamais empêché de dormir, mais on peut se poser la question. Ça vient en fait d'une caractéristique du voyage touristique qui est l'incoatif, pour parler en termes linguistiques. C'est-à-dire, c'est toujours la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Voilà. Dans les manuels communicatifs, on apprend à dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Mais on n'apprend jamais à comment faire lorsque, pour la quatrième, cinquième ou dixième fois, vous rencontrez le même collègue dans un couloir de votre, dans le couloir de votre usine ou de votre université. Comment est-ce qu'on le salue là? Je peux vous dire qu'au moins en français, si vous le resaluez comme la prochaine fois, bonjour, l'autre va dire, mais il se fout de moi là, il se moque de moi. On ne salue pas de la même façon quand c'est la deuxième, la troisième. Dans l'approche communicative et l'approche culturelle et l'approche interculturelle, c'est toujours la première fois. C'est merveilleux, c'est comme en amour. Hein? C'est toujours la première fois, c'est merveilleux. Voilà. Les stéréotypes négatifs, les stéréotypes socio-négatifs, c'est justement ce qui est susceptible de gêner la mauvaise communication langagière avec des gens que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais rencontrés. Et donc, on a des représentations, on ne peut avoir deux de représentations que celles que l'on a héritées dans sa propre culture. Vous voyez la caractéristique incoative. Voilà. Construction, ça, qu'est-ce que j'en fais avec la perspective, avec la perspective actionnelle? Ben, si on applique la perspective actionnelle à la problématique culturelle, on va s'intéresser à la culture d'action, c'est-à-dire à la manière dont on agit et à la manière, et homologie entre apprentissage et usage, à la manière dont on va demander aux apprenants d'agir en classe. Voilà, si vous voulez, le point névralgique en termes de culture. Ce n'est pas les cultures sociales comparées, ce n'est pas l'interculturel des cultures existantes, mais la culture que les apprenants eux-mêmes vont devoir mettre en commun pour travailler ensemble, de la même manière que plus tard, lorsqu'ils seront dans une entreprise, eh bien, il faudra qu'ils adoptent ou qu'ils se créent ce qu'on appelle justement une culture d'entreprise. Et une culture d'entreprise, une culture d'action, c'est l'ensemble des conceptions partagées pour et par l'action commune. Donc le concept de conception, si vous me permettez, le concept de conception remplace, va jouer le rôle forcément du concept de représentation dans l'approche interculturelle. Voilà. Et les innovations technologiques, bon, vous lisez ça aussi. Je vous renvoie à cet article où j'étudie justement les cas historiques où à quel moment les innovations didactiques, les innovations technologiques ont réussi ou pas. Ça me paraît intéressant à voir, pas seulement au cours de l'histoire, mais pour en tirer des leçons. Bah, la leçon de l'histoire, en l'occurrence, c'est qu'il faut qu'il y ait des facteurs convergents. Il faut qu'il y ait des facteurs convergents qui viennent appuyer l'innovation technologique. Mais l'innovation technologique en elle-même peut impliquer une régression didactique. Les exercices structuraux par rapport à la conceptualisation grammaticale des années 50-60 en France, l'introduction des exercices structuraux, laboratoire de langue, behaviorisme, impliquait une, par rapport à la perspective actuelle, impliquait très clairement une régression didactique et non pas un progrès, et non pas un progrès didactique. Un facteur de divergence fondamental, en tout cas dans les lycées et les collèges, un facteur de divergence par rapport à l'innovation technologique, c'est la capacité de maintenance des matériels. Une innovation, en d'autres termes, merci monsieur de Lapalisse, une innovation technologique en didactique des langues, quand elle ne marche pas, ça ne peut pas être une innovation. Voilà. Ah, bah, c'est justement ce que je voulais voir au fur et à mesure. Voilà. L'histoire, comme mode, il me reste combien de temps, Richard ? Oula, tu m'inquiètes. Non, pas beaucoup, beaucoup, non, parce que. Ok, tu me fais signe, est-ce que tu peux me faire signe 5 minutes avant le quart d'heure de discussion ? Parce que, bon. Hein, je sais que je présente des choses qui peuvent être considérées comme polémiques, donc ce ne serait pas très correct de ma part de dire voilà, c'est dommage, on ne peut pas en discuter, c'est fini. L'histoire comme mode d'approche complexe des enjeux didactiques actuels. Modèle cognitif et théorie cognitive, je renvoie à un modèle qui est aussi sur mon site. Donc si vous me demandez le document d'aujourd'hui, là je vous envoie aussi les fichiers joints avec le PowerPoint en usage, donc vous pourrez comme ça circuler dedans. Voilà un panorama, si vous voulez, de ce que l'on a demandé, l'exigence première de l'enseignant vis-à-vis des élèves. Au lieu de partir des théories, je pars de la classe. Qu'est-ce que les enseignants avaient comme injonction fondamentale vis-à-vis de leurs élèves ? Être attentif, multiplier les contacts en classe et hors classe, participer. Il y a un moment où l'enseignant ne dit plus « soyez attentif, écoutez-moi », mais « participer ». Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé de la pédagogie dite traditionnelle à ce qu'on appelle les méthodes actives. D'accord ? Ici, on est sur l'imprégnation, le bain linguistique, qui apparaît, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que les écoles Berlitz, c'est 1870-73, à Rhode Island, aux États-Unis. Réagir en classe, les exercices structuraux, bien entendu, mais la question du prof prédéterminant étroitement les réponses des élèves, c'est une mise en œuvre du modèle de la réaction bien avant la théorie behavioriste. Si la théorie behavioriste a eu du succès à un certain moment, c'est qu'elle venait en quelque sorte étayer scientifiquement une exigence fondamentale qui est la nécessité de répétition intensive et mécanique dans une classe. Je suis désolé s'il y a parmi vous des constructivistes et socio-constructivistes à 100%, mais c'est une réalité. il y a au moins un certain nombre d'élèves qui ont besoin, ne serait-ce que parce que ça les rassure, ils ont besoin d'exercices mécaniques répétitifs. Communiquer en classe de manière authentique ou simulée, c'est le modèle de l'interaction, l'approche communicative. Produire des énoncés pour vérifier des hypothèses et réfléchir en particulier sur ces erreurs, parce que c'est une trace de construction de l'interlangue, et ben voilà le modèle constructiviste. Et puis la perspective actionnelle que j'ai construite avec une série de modèles qui en fait viennent de ce qu'on appelle la conduite de projet. Dans la conduite de projet, vous avez la coaction, la proaction et la rétroaction. Mais bon, on n'est pas là pour parler là-dedans. Voyez, c'est un exemple qui montre que on a une succession là historique. On est passé effectivement par tout ça, et tout ça fait partie au niveau des pratiques de l'enseignant. Ça fait partie des enjeux. Ces enjeux sont toujours réels, même s'il y a eu des mises en forme et des étayages théoriques extrêmement différents, même si à certains moments on a mis l'accent beaucoup plus sur une chose que sur une autre. Fondamentalement, les enjeux fondamentaux restent les mêmes. Et ce que vient apporter la théorie, ce sont des sélections, des mises en avant, mais c'est de la broderie par rapport au tissu fondamental des exigences, en fait, du processus d'enseignement apprentissage. Autre modèle aussi, je passe très vite. Encore une fois, je vous enverrai ou je laisserai à Richard mon PowerPoint, et puis vous lui demanderez vous-même. Voilà un modèle que j'ai fait aussi il y a déjà quelques temps. Les différentes orientations de l'agir. J'ai pris le concept philosophique de l'agir, puisqu'il permet de donner une abstraction à ce qui est appelé tâche, action, activité dans le cadre. Il y a beaucoup de flou. Hein. Il faut faire des choses aux élèves. Voilà, il faut les mettre en agir. Voilà. Cet agir-là peut être orienté, à ma connaissance, il y a 7 orientations que l'on voit se succéder, être privilégiées plus ou moins à certains moments de l'histoire de la didactique des langues. Il n'y a absolument aucune raison de se passer de l'une ou l'autre actuellement. Et même si l'on met plutôt maintenant, on va mettre l'accent plutôt sur le projet à cause de cette fameuse homologie entre situation et agir d'usage et d'apprentissage, formation d'un acteur social. Donc on va faire agir l'élève en tant qu'acteur social dans sa propre classe, c'est ce qu'on appelle un projet. D'accord ? Il n'y a aucune raison pour laisser tomber les autres formes d'agir. Enfin, l'histoire est une richesse du point de vue professionnel et pas du tout de la simple érudition. Voilà. L'évolution historique des configurations didactiques, j'en ai parlé un petit peu. Hein. Et voilà, je me suis même risqué en Algérie. Le premier colloque sur la politique linguistique en Algérie, il s'est tenu à Batna. Et les gens regardaient à chaque fois que la porte s'ouvrait pour voir s'il n'y avait pas la police qui rentrait, parce que c'était un thème extrêmement polémique à l'époque. Eh bien, voilà comment j'ai exploité, en quelque sorte, le modèle des configurations didactiques pour dire quelle politique linguistique en Algérie. Ben, ça dépend. Ça dépend de ce que l'on veut que l'apprenant soit capable de faire plus tard, dans quelle situation. Et suivant la réponse que l'on donne à cela, eh bien, la configuration didactique et donc la méthodologie constituée va être différente. Donc c'est toujours quelle politique linguistique, au pluriel forcément, ou vous prenez politique linguistique comme incluant. Là, je me concentre, si vous voulez, sur l'aspect méthodologique des politiques linguistiques. Les politiques linguistiques, ça doit bien avoir une traduction aussi au niveau des classes. Qu'est-ce que l'on fait faire aux élèves pour que plus tard ils soient capables de faire quoi? Dans quelle langue et dans quelle situation? Et le dernier exemple pour cette deuxième partie, vous l'avez dans vos photocopies. C'est voilà comment je schématise pour l'instant, je schématise les enjeux didactiques post cadre européen commun de référence. Avec la méthodologie active, l'exploitation des documents authentiques, c'est la configuration numéro 2 du tableau des configurations didactiques. Configuration numéro 2, configuration numéro 3, numéro 4 et numéro 5. OK ? Quand je dis OK, c'est une manie que j'ai prise au Venezuela, dans un pays de langue espagnole, mais ils disent OK. Et c'est pas pour vous demander si vous êtes d'accord, mais seulement si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est tout. Alors, les modèles cognitifs, alors, l'histoire comme mode d'approche, eh ben, on l'a vu ça, excusez-moi, voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on vient de voir. Je me disais, on est en train de se répéter là. L'histoire comme outil et modèle de formation des enseignants. Un peu plus polémique encore. Un peu plus polémique. L'histoire, à condition de considérer que dans une certaine mesure, sur certains domaines, sur certaines problématiques, tout ce par quoi on est passé au cours de l'histoire a une actualité, eh bien ça permet de présenter justement des modèles panhistoriques en quelque sorte, qui échappent au mode et qui permettent d'appréhender, qui permettent aux enseignants d'appréhender de façon plus large les problématiques actuelles. Ça donne aussi l'histoire des outils méthodologiques. J'ai pris quelques exemples. Voilà un exemple que vous trouverez aussi sur mon site, que j'ai réutilisé et que j'ai commenté dans un ouvrage qui s'appelle « Le guide pour la recherche en didactique des langues étrangères » qui a été publié par l'AUF il y a quelque temps. Je vous ai parlé des méthodologies constituées, qui sont des macro-cohérences. Pour réfléchir en méthodologie, il faut avoir la macro-cohérence, et puis il faut avoir aussi l'équivalent du SEM en sémiotique, et pour moi c'est la méthode. J'utilise le concept de méthode comme unité minimale de cohérence méthodologique. Unité minimale de cohérence méthodologique. Et lorsqu'on analyse avec ces briques, lorsqu'on analyse les méthodologies, eh bien on voit que certaines ont donné plus d'importance à l'une, aux unes qu'aux autres, que certaines ont interdit un élément du couple par rapport à d'autres, mais globalement, il n'y a absolument aucune raison actuellement pour qu'un enseignant se passe d'aucune de ces méthodes. Et quelle est la raison historique pour laquelle chaque méthode, en fait, a son contraire ? Eh bien, c'est que pour gérer la complexité, il faut être capable de faire une chose et son contraire. Vous ne pouvez essayer de maintenir la langue étrangère comme langue de communication en classe que parce que vous savez que si vous avez une difficulté, vous pouvez passer à la langue maternelle. La méthode, par exemple, déductive-inductive, ce sont des méthodes qui sont opposées, mais qui sont parfaitement articulables. La preuve, c'est que lorsqu'on fait réfléchir, lorsqu'on fait conceptualiser, Henri Bess est très connu en didactique des langues, en particulier pour un article sur la conceptualisation grammaticale au niveau 2, où en français langue étrangère, on redécouvrait ce qu'on n'avait pas abandonné en didactique scolaire. Voilà. La conceptualisation, c'est de l'induction, mais la conceptualisation n'a de sens que si la compréhension métalinguistique à laquelle sont parvenus les apprenants est ensuite instrumentalisée au service de la production de la langue. C'est-à-dire, après la conceptualisation, vient toujours, pas tout de suite après, mais on ne fait la conceptualisation, on ne fait de l'induction que parce que derrière, il va y avoir de la déduction, c'est-à-dire un exercice d'application. Ce sont des contraires qui sont parfaitement complémentaires. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est une bonne définition de ce qu'on appelle la pensée complexe. Les contraires qui sont en même temps complémentaires. On pourrait faire la même chose sur les autres unités. Donc dans cet ouvrage dont je vous parlais, mais il n'est pas sur mon site parce qu'il est encore distribué, ben je montre comment une séquence de classe, par exemple, peut être analysée à partir de passages et combinaisons et articulations entre ces différentes méthodes. Ça permet de faire de l'analyse micro-méthodologique. La tâche. Vous vous rappelez les différentes orientations que je vous ai montrées de la tâche tout à l'heure. Ce que permet l'histoire, c'est justement, en montrant les différentes colorations qu'a eu un concept au cours de l'histoire, de montrer quel est le concept lui-même, le concept du concept. Le concept le plus abstrait, c'est celui que l'on peut induire de toutes les formes que ce concept a pris au cours de l'histoire. D'accord ? Voilà la définition de David Newnan, qui définit la tâche. Je suis désolé, mais ce n'est pas le concept de tâche qu'il définit. Il décrit une tâche communicative. Ça se voit très bien dans la définition. Il décrit une tâche communicative. Et voilà la définition que, pour ma part, je donne de tâche. Unité de sens au sein du processus d'enseignement-apprentissage. Voilà, c'est tout. Maintenant, un concept très abstrait, c'est comme une éponge, vous savez, les éponges toutes sèches que l'on achète dans le commerce. Vous prenez le concept de tâche, vous le plongez dans un bain traditionnel, vous en sortez une tâche de traduction. vous faites couler un bain communicatif, vous sortez une tâche communicative. Voilà. Donc, l'histoire comme, gymnastique intellectuelle pour faire parvenir les élèves, les enseignants de façon concrète au concept le plus abstrait. Parce que c'est du concept abstrait qu'ils auront besoin ensuite dans leur cours pour adapter justement la pratique à la complexité de leur environnement. L'unité didactique. Pourquoi est-ce qu'il rame? Je rame, tu rames. Ouh, il rame. L'unité didactique. Ah ben voilà, c'était ça. Bon, il y a aussi les références que vous aurez sur le PowerPoint. Vous avez un problème fondamental en didactique, c'est qu'il faut travailler par unité. On ne peut pas travailler dans un flux constant pendant 20 heures, 25 heures, 50 heures. En même temps, on ne peut pas non plus faire, regardez, je prends un raisonnement par l'absurde, comme les aiment bien les philosophes, on a 50 heures, on divise par les différentes activités, donc on va commencer par 15 heures de grammaire, ensuite on va faire 10 heures de compréhension orale, ensuite on va faire 10 heures de lexique, j'ai déjà dépassé le compte, hein, mais le compte n'y est pas, vous voyez, donc ça n'a pas de sens non plus. Donc on a inventé l'unité didactique, c'est quoi? C'est l'échelle idéale dans laquelle on va pouvoir faire tenir ensemble des activités différentes en jouant la synergie. C'est-à-dire, il faut que ce que l'on fasse en grammaire serve pour la compréhension écrite. Il faut que ce qu'on fasse en compréhension orale serve pour l'expression orale. Il faut que ce que l'on fasse en grammaire serve pour l'expression écrite. Voilà. Donc, il faut travailler par unité, il faut jouer la synergie optimale. Eh bien, ça vous donne 10-15 heures, ça vous donne entre 10 et 15 heures en Occident. Je ne sais pas si dans d'autres cultures, on a inventé des unités didactiques beaucoup plus longues, ce serait intéressant. Mais c'est au cours de l'histoire que c'est créé, si vous voulez, cette unité de l'unité didactique, cette échelle de l'unité didactique. Et puis, il faut, on a la taille de l'unité didactique, l'échelle, il faut donner une unité à l'unité didactique. Je fais toujours avec mes étudiants, vous n'êtes pas des étudiants, une question que j'aimais bien leur poser, vous faites ça pour la semaine prochaine. Prenez des manuels et repérez-moi l'unité des unités didactiques. Qu'est-ce qui fait l'unité des unités didactiques? À partir du moment où on fait des choses extrêmement différentes, de la culture, du lexique, de la grammaire, de la phonétique, compréhension écritorale, expression écritorale, qu'est-ce qui fait tenir tout ça ensemble? Voilà. Bah, ce qui fait tenir tout ça ensemble, c'est l'entrée. C'est le domaine par lequel on va entrer. Et je signale d'ailleurs, je pense que Henri Bess sera sensible à la chose, que le mot leçon, par exemple, une leçon, première leçon, deuxième leçon, ça vient de la lectio latine et ça vient de l'exposé magistral que l'enseignant faisait de la grammaire au début de l'unité didactique. L'unité didactique commençait par la lectio grammaticae. Et c'est le début de l'unité qui a fini par donner le mot de l'unité, je crois qu'on appelle ça une synecdote en français. Une partie qui finit par désigner le tout. Ben, historiquement, Vous avez des manuels où vous avez leçon 1, article défini, leçon 2, article indéfini, leçon 3, masculin, leçon 4, féminin, leçon 5, verbe régulier. L'entrée, c'est clair, par la grammaire. Vous avez ensuite, à la fin des années 1900, vous avez des manuels qui commencent par la salle de classe, la cour de récréation, la maison paternelle, la cour du village, les travaux des champs, les saisons. Vous voyez que tout de suite, là, on est passé à une entrée par le lexique. Ensuite, l'entrée par la culture a posé problème, parce que comment trouver... Ici, vous avez c'est le point de grammaire, c'est l'unicité du point de grammaire qui fait l'unité grammaticale. Ici, c'est l'unité du thème lexical. On parle de vocabulaire thématique. Le corps humain, les saisons, les vêtements, etc. Ici, quelle unité trouver dans la culture? Eh bien, on a trouvé le document. Le document représentatif en langue et en culture. Et un document, une unité didactique. Et là, on est dans la configuration numéro 2. C'est l'unité du document représentatif de langue et de culture qui va générer l'unité du document. Encore 5 minutes. Voilà. La communication et l'action. Vous avez maintenant les derniers manuels en français langue étrangère. Les derniers, ça commence à dater de... Le premier, c'est Rond-Point, en 2004, en français langue étrangère. C'est le premier manuel où on annonce... À la fin de l'unité, vous serez capable de faire ceci ou vous allez faire cela. Et voilà maintenant quel est le vrai titre de toutes les, tous les manuels maintenant se réclament de la perspective actionnelle en, en France, et tous sont passés à l'unité d'action. C'est l'unicité de l'action que l'on va préparer aux, que l'on, auquel on, à laquelle on va préparer les élèves qui est affichée comme l'unité de l'unité didactique. Voilà. Et quand je pose à mes étudiants quelle est la meilleure unité, ils savent déjà, malheureusement, ils me connaissent en disant ça dépend. Ça dépend, bien entendu. Tout ça est, est absolument disponible. Hein. Et je rêve, je n'ai jamais réussi à l'imposer. J'ai fait plusieurs manuels. Je n'ai jamais réussi à imposer à un auteur, à un éditeur, un manuel où il y a justement des propositions d'unités construites de façon différente. Une unité grammaire-traduction. Une unité sur un document littéraire. Une unité sur une approche lexicale. Quelle est la bonne approche? C'est à l'apprenant à le décider. C'est à eux à essayer et à discuter ensuite pour voir ce qu'ils préfèrent et éventuellement à en discuter. Mais bon, toutes les unités, pour tous les éditeurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous direz si je me trompe, du monde entier, toutes les unités doivent être forcément reproductibles à l'identique. On demande toujours l'unité type. Et ensuite, l'unité doit se répéter de façon constante. Et à mon avis, c'est une erreur. Mais bon, allez faire changer la vie à un éditeur, pour ceux qui en ont un. Et architecture générale, une formation universitaire, c'est la... il se trouve, je vous renvoie là aussi au lien qu'il y a sur mon article, la didactique du français langue étrangère, c'est très clair, elle s'est construite en France, on m'avait demandé de faire un article sur l'évolution des conceptions formatives en français langue étrangère. Et c'est très clair que depuis fin 19e jusqu'aux années 1980, il y a trois phases très claires. Au début était la méthodologie, c'est-à-dire que la question fondamentale c'est le comment. Dans les années 70, la question fondamentale à laquelle on passe, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on enseigne? C'est l'approche des niveaux seuils, avec l'approche systémique, d'accord? Le FOSS et autres fous sont toujours orientés comme ça par le quoi. Hein, et ça, c'est la didactique, c'est le quoi. Parce qu'en fonction du quoi, on va faire évoluer le reste des paramètres. Hein. Et puis Galisson, en 1980, début 80, il a fait beaucoup rigoler, mais je trouve qu'il avait une très bonne intuition. Eh bien, il a proposé le concept de didactologie. Pour moi, alors lui, pour lui, de la didactologie, c'est l'ensemble de la discipline. Pour moi, très clairement, ce sont trois perspectives internes. On commence par la question du comment, par la question du quoi, et on finit par la question du pourquoi. C'est la question fondamentale. Il me semble, j'avais lu une thèse là-dessus sur l'évolution des enseignants dans les premières années. Un enseignant débutant, il est absolument angoissé par le comment. Il venait me voir à l'IUFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Voilà, mon professeur, j'ai choisi ça pour ma classe d'inspection. Comment je fais? Ça ne lui vient pas l'idée de dire qu'est-ce que j'ai choisi pour que faire. Et comment je fais? Est-ce que je lis le texte une fois, livre fermé, pas livre fermé? Le comment. Ensuite, la question du quoi. Et parfois, certains arrivent jusqu'à la retraite pour finir par se poser la question du pourquoi j'ai fait tout ça. Pourquoi j'ai fait tout ça. Okay. Voilà. Et donc, j'ai proposé, dans différents pays, de concevoir justement la formation des enseignants comme une formation qui passe par les mêmes stades que la maturation de la discipline. On appelle ça en philosophie. On va faire en sorte que la phylogénèse répète l'ontogénèse. Bon, c'est une idée qui est très critiquée, mais qui est très utilisée dans certaines formations. Par exemple, en philosophie continentale, faire de la philosophie, c'est faire de l'histoire de la philosophie. C'est montrer comment la philosophie s'est construite. Le droit, c'est pareil, dans les facultés de droit. Pour comprendre le droit actuel, on fait passer les étudiants par les différentes phases par lesquelles s'est construite le droit. Voilà. Bon, mais c'est critiquable, bien entendu. Il faudra que je vous laisse le temps de me critiquer, d'ailleurs, si je vais... Donc, ça, on vient de le voir. Voilà. Et l'histoire comme source d'innovation par différenciation. Heureusement que personne n'est venu avec les tomates. Parce que là, c'est l'idée que... La première idée jusqu'à présent, c'est que dans l'histoire, on trouve des choses qui sont valables pour maintenant. La deuxième idée, c'est que dans l'histoire, on repère des manques, des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à présent. Et si par hasard, ça n'était pas intéressant de le faire, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Voilà, ce serait ça un petit peu fondamentalement, si vous voulez, l'idée que je voulais vous exposer par différents documents que vous aurez sur le PowerPoint si vous voulez l'avoir. Je vais juste prendre deux exemples. Manipulation génétique. L'approche communicative, c'est littéralement créé à partir de la situation sociale de référence qui est le voyage touristique. Dans le voyage touristique, on passe sur son temps à rencontrer pour la première fois un coatif, des gens pendant très peu de temps, on va les quitter très vite, ponctuels, qu'on ne va plus revoir par la suite perceptifs, et c'est un enjeu individuel. Même lorsqu'on fait un voyage collectif, l'enjeu, l'évaluation est une évaluation individuelle. Voilà, si vous voulez, l'ADN de l'approche communicative, que l'on retrouve dans l'approche interculturelle. Là, on pourrait vous faire la démonstration. On est maintenant sur un enjeu complètement différent, l'agir social dans une société multilingue et multiculturelle. C'est ce qu'annonce le cadre européen commun de référence. L'idée que j'ai eue, c'est, et si on construisait alors la perspective actionnelle à l'inverse complètement de l'approche communicative? C'est-à-dire qu'on va jouer le répétitif, on va jouer le duratif, on va jouer l'imperfectif et on va jouer le collectif. Voilà. Justement pour opposer au maximum l'approche communicative et la perspective actionnelle. Ça n'est pas pour créer quelque chose qui serait meilleur dans l'absolu que l'approche communicative. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre ça en France, même auprès de mes collègues didacticiens. J'ai construit, je crois avoir participé beaucoup à la construction de la perspective actionnelle en France, en opposition systématique à l'approche communicative, non pas pour faire quelque chose de mieux, mais pour faire quelque chose le plus différent possible, de façon à ce que les enseignants aient le choix entre des choses très différentes. De la même manière qu'au niveau micro-méthodologique, ils peuvent choisir du transmissif ou de l'actif, du déductif, de l'inductif, du SEMA ou de sémasiologique et... Merci Henri. De la même manière, un enseignant est confronté à la complexité, il doit être capable de faire, encore une fois, des choses extrêmement différentes. J'ai une expression en français, on dit en français, je dis un enseignant doit être capable de faire n'importe quoi, y compris une chose et son contraire. Mais en France, on fait la différence entre faire n'importe quoi et faire du n'importe quoi. Et tout l'enjeu d'une formation initiale des enseignants, c'est d'arriver à leur faire faire n'importe quoi sans que ce ne soit pas du n'importe quoi. C'est-à-dire de l'éclectisme, mais de l'éclectisme raisonné, adéquat et pertinent. Et la dernière chose, maîtrise informationnelle. Voilà, j'ai pris... Dans l'approche communicative, on se concentre sur la communication, sur l'activité de communication. D'accord ? Il existe maintenant, je me suis inspiré de cet ouvrage, Introduction à la maîtrise de l'information, qui existe en anglais aussi. Je crois que l'original, étant donné le nom de la personne, a même été écrit en anglais, sans doute. Il propose en annexe B, voyez, le cycle d'acquisition de la maîtrise de l'information. Vous prenez la perspective actionnelle, qui est la perspective de formation d'un acteur social. Un acteur social vis-à-vis de l'information, il n'a surtout pas à prendre une information et la communiquer aussitôt. Il n'y a pas besoin de ça, les virus le font tout seuls. Un acteur social responsable vis-à-vis de l'information, il doit être capable de faire tout ça, y compris des activités pré-communicatives et des activités post-communicatives. Ça n'a pas été fait pour l'instant dans les manuels communicatifs. Dans les manuels communicatifs, vous connaissez l'exercice d'information gap. Vous donnez la moitié de chaque information à deux élèves. Allez-y, ils doivent reconstituer l'information. Je n'ai pas vu un seul manuel qui ait posé la question. Maintenant, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble de l'information que vous avez partagée. Pas un seul manuel. Je n'ai pas non plus d'exemple d'élèves qui aient dit « Attendez là, mais vous me donnez une moitié de l'information et puis un autre. D'où est-ce que vous avez tiré cette information-là? Vous l'avez validée? On la prend telle quelle? Comment vous avez séparé la moitié là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec l'information que l'on aura réunie? Parce que bon, réunir pour réunir, nous, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Oui. Autant de questions que les enseignants eux-mêmes et les apprenants ne se sont jamais posées parce qu'on était justement sur le paradigme de la communication qui isole l'activité de communication par rapport à tout ce qu'un acteur social responsable doit être capable de faire par rapport à l'information. Ben voilà, innover maintenant dans un manuel, c'est de se dire, on faisait que ça dans un manuel communicatif, ou principalement ça, eh ben on va faire ce qu'on n'a pas fait auparavant en pré-communicatif, et ce qu'on n'a pas fait ensuite. Un exemple concret, hein, il y a le premier manuel qui se réclame de la perspective actionnelle en français langue étrangère, c'est un manuel qui s'intitule « Rond-point ». Dans le manuel rond-point, à la fin de la première unité, il y a un agenda. On propose la tâche finale. On reproduit un agenda, nom, prénom, adresse, motivation pour apprendre le français. Et donc, on voit très bien l'utilisation communicative. Chaque apprenant va devoir aller voir chacun des autres apprenants pour lui demander son nom, son prénom, motivation pour apprendre le français. Voilà l'agenda. On ne reparle plus de cet agenda jusqu'à la fin du bouquin. C'est fini. L'unité didactique communicative, elle est perfective. On retrouve l'ADN dans l'unité didactique aussi, de l'approche communicative. Une fois que l'unité didactique est finie, c'est fini. On ne continue pas. Alors que dans une perspective actionnelle, un agenda, un outil pour faire quelque chose, en l'occurrence pour contacter des gens au moment où on en a besoin pour faire ensemble des choses, eh ben il faut qu'il soit à jour. Et donc l'idée naturelle aurait été de ressortir cet agenda au fur et à mesure. Ne serait-ce que, vous voyez, quand même, motivation pour apprendre le français, ressortir cet agenda deux fois ou trois fois au cours de l'année pour que les apprenants puissent dire « Ah ben voilà pourquoi je voulais apprendre le français au début. Est-ce que c'est toujours la même? Est-ce que je suis toujours aussi motivé? Est-ce que ma motivation est la même ?» Et les autres, vous voyez ce que ça peut apporter au collectif en tant qu'apprentissage et au collectif en tant qu'apprenant. On n'a pas du tout pensé à faire cette exploitation évidente du point de vue pédagogique de cet agenda, tout simplement parce que on est dans l'ADN de l'approche communicative, à savoir le perfectif. La communication est à la fois l'objectif, est à la fois le moyen et l'objectif. Quand la communication est réussie, la communication est terminée et on passe à autre chose. De la même manière que quand un voyage touristique est terminé, eh ben on fait un autre voyage et on rencontre de nouvelles personnes qu'on va rencontrer pour la première fois, qu'on va côtoyer très peu de temps et qu'on va requitter très vite. Mais la classe de langue n'est pas du tout l'ADN naturel de la classe de langue. C'est du répétitif, c'est du collectif, ce n'est pas de l'incoatif. Il y a une homologie en termes de d'ADN, hein, l'ADN de la situation d'usage à laquelle on veut préparer les élèves. Un acteur social, c'est un acteur qui s'inscrit dans la durée. Et qui s'inscrit dans le collectif, la durée et le collectif. Or, une classe de langue aussi, c'est naturellement un milieu où on doit s'inscrire dans une durée et dans le collectif. Vous voyez, par rapport à ça, l'approche communicative est en déphasage, il y a une incompatibilité génétique, si vous me permettez l'expression, entre l'approche communicative telle qu'elle a été élaborée, en tout cas en France, et les enjeux actuels de formation d'un acteur social. Voilà, j'ai dépassé un peu le temps.
Oui,
merci.
Merci.